Vous écoutez France Culture.
Bonjour Adèle et bienvenue à tous dans Grand Amphi. Grand Amphi, la série estudiantine de Martin Kénéen et Julie Bérécy. Dans la hotte des sciences sociales, épisode 2. Les cadeaux de Noël s'entassent dans vos caddies, ou peut-être déjà au pied des sapins en attendant la nuit. Mais ce qu'ils contiennent et surtout ce qu'ils signifient n'intéresse pas que vous, chers auditeurs. Ce qu'ils renferment excite aussi la curiosité intellectuelle et la sagacité de nos trois invités. Anne Monjarret, bonjour.
Bonjour.
Martine Perrault, bonjour. Et Mona Zegaï.
Bonjour.
Et pour ce deuxième temps de notre voyage en traîneau dans la hotte du Père Noël, je voudrais que nous abordions la violence qui couve sous le papier cadeau. Anne Monjarret, on le sait, une fois les cadeaux déballés, les fêtes de Noël se terminent parfois en règlement de comptes familiaux. Mais alors, à vous lire, et singulièrement votre article « Les cadeaux à quel prix ?», publié dans la revue Ethnologie française, il semble que c'est peut-être précisément le but des présents que l'on offre, régler des comptes, qu'ils soient matériels ou affectifs.
Eh bien, les cadeaux, finalement, on le sait, enfin dans notre société en tout cas, sont des objets et des marchandises. Donc, ils ont un prix. Et on joue de ça dans notre société. Alors, c'est vrai qu'il faut rappeler quand même que Noël, c'est une fête familiale et que ces cadeaux deviennent des messages. Alors, offrir tel ou tel cadeau qui ne correspond pas, par exemple, à la personne, eh bien, ces cadeaux peuvent être très mal pris. Et puis, il y a aussi des jeux et des jeux méchants, dans le sens où quand vous offrez un objet, puisqu'on le sait, une marchandise, très cher. Et si on suit le principe de Mauss, de devoir rendre, eh bien...
De Marcel Mauss. Hein,
de Marcel Mauss.
Qui a écrit l'essai sur le don.
Sur le don. Eh bien, la personne qui recevra sera dans l'impossibilité de rendre un jour un cadeau identique. Et ça le met justement en déséquilibre et ça crée de la tension dans la relation. Le cadeau, c'est aussi un objet matériel. Et on peut s'en défaire, on peut donc notifier une rupture en ne conservant pas le cadeau qu'on a reçu. Alors là, voilà, c'est là, à ce moment-là, que se jouent aussi nos façons de penser notre relation à l'autre. Et l'autre a également, doit percevoir également notre façon de le regarder. En fait, se jouent les relations, effectivement, entre membres de la famille et plus largement, finalement, les relations sociales.
Martine Perrault, pour vous qui avez fait l'histoire des cadeaux, c'est le titre de votre dernier ouvrage, Cadeaux de Noël, histoire d'une invention, publié chez Autrement, au-delà peut-être du ramasse-miettes en vogue, selon vous, à la fin du 19e siècle, et qui est peut-être porteur déjà d'une forte valeur symbolique, est-ce qu'il y a une tradition de cadeaux porteur d'un message de guerre ou de paix ?
Pour les enfants, oui. Au 19e, les petits garçons reçoivent des uniformes militaires extrêmement précis, minutieusement copiés, des armes de guerre. Et les petites filles reçoivent évidemment des choses qui les préparent à leur futur rôle de maîtresse de maison. Mais c'est vrai que c'est plutôt du côté jouet là, que ça se joue, pas du côté cadeau entre adultes. Il n'y avait pas, à ma connaissance, pour les pères, c'était des articles de fumeurs. C'est là où on voit que les choses ont bien changé. Et pour les mères, même les gens très, très aisés dans le milieu desquels ça s'offrait, c'était effectivement des articles qui les renvoyaient à leur rôle de maîtresse de maison.
Mais alors, on est assez loin avec les uniformes militaires du 19e siècle offerts aux petits garçons de l'esprit de Noël, cet esprit apaisé, irénique.
L'esprit de Noël, ben vous savez, l'esprit de Noël, on le doit à Dickens. C'est Dickens, dans ce fameux conte de Noël, qui a développé ce que j'ai appelé, moi, cette trinité, c'est-à-dire la charité, l'enfance, la famille. Donc, cette harmonie recherchée et rarement atteinte les soirs de Noël, comme vient de le dire Anne, à travers les cadeaux, ce n'est pas toujours évident. Et c'est vrai que cet esprit de Noël a été... inventé lui aussi à partir du 19e et contemporain de cette nouvelle façon de fêter Noël. Voilà.
Mona Zegaï, l'encouragement à la violence masculine, par exemple à la violence guerrière, comme dans la section du catalogue des magasins Carrefour dédié aux petits garçons en 1999 et qui s'intitulait le quartier des générales des garçons, c'était le nom de cette partie du catalogue. Est-ce que c'est la norme ?
Alors oui, globalement, c'est la norme. Effectivement, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Alors, ce n'est pas quelque chose de récent. Hein. Quand on consulte, par exemple, les cartes postales qui sont datées de la Première Guerre mondiale, durant la Première Guerre mondiale, on peut observer des petits garçons qui jouent avec des soldats de plomb. Et il y a écrit des phrases du type « Dispose bien tes soldats, féconds seront les résultats », quelque chose comme ça. Et puis aussi « Quand l'heure viendra, remplace ton grand-père ». Il y a toujours en arrière-plan l'image du poilu qui est parti, qui est à la guerre. Et puis souvent, on voit des petites filles qui, elles, sont en train de rêver, penser à leur papa. Elles sont bien sages en attendant que leur papa revienne de la guerre. Et quand l'armistice est signé, là, on voit des photos de petites filles très heureuses que leur papa revienne enfin au domicile. Donc, ce n'est pas quelque chose de récent. Mais ceci dit, effectivement, on peut se poser plus de questions quand on n'est pas en période de guerre. Et puis, au XXIe siècle, par exemple, quand on consulte des catalogues de jouets et qu'on voit que ceux qui sont adressés explicitement ou plus ou moins explicitement aux garçons comprennent beaucoup de jouets guerriers. Effectivement, la plupart des figurines, par exemple, qui sont proposés aux garçons, ont des armes qui sont très puissantes, très technologiques, etc. Et finalement, aux garçons est proposé vraiment un univers de compétition. La seule coopération qu'il peut y avoir, c'est avec finalement d'autres soldats, par exemple, qui seraient de la même équipe, mais c'est toujours contre d'autres personnes. On joue vraiment contre.
C'est ce que, voilà, ce que vous dites. Oui.
Exactement, on joue contre.
Martine Perrault ?
Oui, non, c'était pour ajouter, pour illustrer. Alors, vraiment, au moment de la guerre de 14, je crois que c'est la Samaritaine qui avait comme affiche des traînes un Père Noël en poilu qui arrivait et avec des poupées qui représentaient l'Alsace-Lorraine. Et les petites filles, à l'époque, avaient beaucoup d'uniformes d'infirmières.
Anne Monjarret, les fêtes de Noël, elles ne concernent pas seulement les familles. Vous avez ainsi enquêté sur ce qu'on appelle les arbres de Noël organisés dans les entreprises. Et au-delà des bonnes et généreuses intentions que manifestent ces arbres de Noël, est-ce qu'on peut aussi y voir une part de violence ?
Mais écoutez, les arbres de Noël, c'est effectivement l'expression, dans l'entreprise en tout cas, d'une fête familiale. Et donc, ce jour-là, on reçoit les enfants, la famille, on leur offre cadeaux, d'ailleurs choisis sur catalogue. C'est le comité d'entreprise en général qui s'occupe de ça. On offre des spectacles aussi. Et finalement, il y a une mise en scène de la famille dans l'entreprise. Alors, ça peut être lu de deux façons. C'est ou un acquis social, et c'est vrai que c'est important pour les salariés. Quelque part, le cadeau est une sorte de prime, hein, que l'on remet à l'enfant, mais n'empêche que ça l'est aussi. Et en même temps, enfin, d'une autre façon, c'est la mainmise ou l'expression de la mainmise de l'entreprise sur la vie privée de ses salariés. Et c'est en ça que quelque part aussi se joue une forme de domination, hein, entre l'entreprise et ses salariés. Et là, ça nous montre bien que l'entreprise est liée non au calendrier festif social. Et donc, elle inclut dans sa vie, dans son fonctionnement, ce qui se passe aussi à l'extérieur, comme pour mieux légitimer ce qu'elle est.
La charge explosive des paquets amassés sous vos sapins et ceux des comités d'entreprise étant à présent, sinon désamorcés, du moins identifiés, vos cadeaux gardent néanmoins une odeur de soufre ou plutôt de sexe. Et c'est ce parfum entêtant que nous analyserons non pas demain mais jeudi avec Anne Monjarret, Martine Perrault et Mona Zegaï dans la suite de Grand Amphi. D'ici là, joyeux Noël à tous. Prise de son et mixage, Olivier Dupré, attaché d'émission, Anne de Biran. Réécoute, podcast et commentaires, franceculture.fr.